Proposons maintenant un programme en rediffusion.
Les passagers à destination du Mali sont priés de rester à bord. Le commandant de bord et son copilote vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
Bonsoir les amis de Bamako, hein, les amis qui sont en train de nous suivre en ce moment aussi en Djamena, un grand coucou à vous, merci de rester à l'écoute de cette émission RM Show, une émission de la voix de l'Amérique, service francophone. Je vous disais tantôt, notre invité spécial aujourd'hui, monsieur le ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, monsieur Mamadou Gaoussou Diarra. On est ensemble les amis, appelez au 001-202-619-3140, hein, et on commence d'abord, on décolle avec un morceau super cool de Amkoulel. Hein, et c'est un morceau que j'adore parce qu'il chante « Mon pays, le Mali, ne sera pas divisé ».
Un peuple, un but, une foi, Mali, un et indivisible. Abada Mali Batikla.
Mon pays ne sera pas divisé.
Libé Mali, Ibolo Kolo Tambeki, Libé Faso, Isen Kolo Tambekaso, Libé Kajamana, Ibocho Namaka Takata, Libé Mali, Ibolo Kolo Tambeki.
Mon pays ne sera pas divisé.
And Unity, mon pays ne sera pas divisé. Amkoulel, hein, un artiste que j'adore. Il est trop cool. Mais avec moi au studio, hein, elle vient juste de s'asseoir. C'est notre collègue. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu dans le RM Show. Hein. Quel plaisir d'avoir Kadia Toutraoré. Merci infiniment d'être là. Hein.
Merci Roger.
Parce que, attends, mais non. Donc, il faut seulement que monsieur le ministre vienne ici chaque jour pour comme ça vous allez venir aussi participer.
Non mais Roger, moi je suis une habituée de l'émission RM Show spécial Mali et de RM Show.
Mais ça fait longtemps quand même qu'on a
oui,
vu Kadia.
Oui mais Roger, ouais. Mais tu sais c'est parce qu'on est trop busy. Le programme en Bambara maintenant est en train de de prendre de l'ampleur à la voix de l'Amérique.
Ça, c'est sûr. Merci à vous. Merci à vous. Ça, c'est sûr. Mais comme vous le voyez, Kadiatou, nous avons notre invité de marque aujourd'hui dans le RM Show, monsieur le ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne.
Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir, Kadiatou.
Bienvenue sur le plateau de RM Show, et qui est un plateau pour les jeunes africains et bien écoutés et partout sur le continent africain, avec mention spéciale pour le Mali.
Ah oui,
les 30
merci.
Minutes spéciales
oui.
Mali,
ouais, spécial.
Qui est très très apprécié par les jeunes du Mali.
Et ils sont prêts à me donner un passeport malien, monsieur le ministre?
Je confirme, je vais appuyer.
Merci infiniment. Au moins là, on a la signature d'un officiel.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Monsieur le ministre, peu avant son discours à la tribune d'un grand hôtel de Washington, le président américain a annoncé la création d'un conseil pour le Doing Business en Afrique. Cet organe aura pour but de promouvoir la croissance et la création d'emplois aux États-Unis et d'encourager les compagnies américaines à investir aussi en Afrique. Vous croyez que cela, évidemment, pourra aider les jeunes que vous représentez?
Oui, je vous l'avais dit tout à l'heure, la solution de l'emploi ne consiste pas à dire un matin je vais créer tant d'emplois, mais plutôt à créer les cadres macroéconomiques pour justement la croissance. Si l'économie marche, il va de soi que les entreprises auront besoin d'employés et forcément il y aura une baisse au niveau du chômage. Il y a une imbrication entre emploi, employabilité et bonne marche de l'économie. Donc, une structure dans le sens de favoriser les affaires en Afrique, oui, je pense que ce serait une contribution significative à la résolution du problème de l'emploi sur le continent.
Monsieur le ministre, nous savons très bien que beaucoup de ministres africains ou ailleurs, même ici aux États-Unis ou en France, ne sont pas facilement accessibles. Est-ce que vous êtes accessible aux jeunes que vous représentez, s'ils veulent vous voir, vous parler? Est-ce que c'est facile à ces jeunes maliens de venir dans vos départements ou vous rencontrer? Est-ce que c'est facile?
Roger, est-ce que si je vous disais que oui, c'était facile, vous allez me croire?
C'est difficile à croire, c'est pour moi.
voilà, donc à la limite, j'aurais pensé que cette question-là devait être posée à quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, je pense que je ne suis pas hermétique, je suis d'un contact assez facile et je m'efforce dans mon ministère d'être le plus accessible possible aux jeunes. Parce que les jeunes constituent une couche assez particulière, avec une réactivité qui n'est pas celle des adultes ou des gens d'un certain âge. Et ils ont besoin de se sentir proches de celui qui a leur dossier en charge.
Exactement.
Et c'est important pour
moi.
Et donc, ça fait partie de mon approche de la question même jeune. Je m'efforce d'être le plus proche possible des jeunes. Et en plus, je pense qu'ils ont ce sentiment-là que je suis un des leurs.
Mais oui, c'est ça, évidemment.
Voilà, donc, il serait pour moi suicidaire dans l'atteinte de ma mission de créer cette barrière-là et qui les amènerait à penser autrement.
Donc, et qu'est-ce que vous faites pour rencontrer ces jeunes-là? Est-ce que vous donnez vos emails, vos numéros de téléphone ou ils viennent au département? Comment ça se passe? Ou est-ce que vous organisez je dirais pas des fêtes, mais des occasions où ces jeunes-là peuvent venir vous rencontrer et discuter, par exemple?
Écoutez, au niveau du Mali, nous avons créé une structure fêtière qui est le Conseil national de la jeunesse et qui entretient des rapports formels de collaboration avec le département. Mais nous nous efforçons à faire en sorte que le maximum se retrouve dans ce conseil-là, bien que nous en soyons convaincus. Il y a d'autres qui ne sont pas forcément de ce conseil. Donc, notre premier interlocuteur demeure ce conseil. Et en marge, vous avez au sein du conseil, bien sûr, des milliers d'associations et qui veulent aussi à chaque fois pouvoir interagir avec le ministère. Nous sommes très réceptifs dans la mesure du possible. Parce qu'il va de soi aussi que si nous voulons être à 100% là, ça voudrait dire qu'on ne fera que rencontrer les jeunes, mais on ne concevra rien, on ne pourra rien mettre en œuvre. Mais en plus, nous avons, dans notre démarche, créé une plateforme interactive que nous avons appelée donc, Forum. C'est des forats thématiques qui se tiennent périodiquement. Nous avons tenu le premier forum au mois de décembre dernier qui portait sur l'apport de la jeunesse dans le processus de réconciliation et de reconstruction nationale et dans la consolidation de la paix, et qui a regroupé des jeunes de l'ensemble du pays. Alors pendant 3 jours, nous avons discuté en direct avec eux. Et là, ce n'était pas le schéma où le ministre vient ouvrir et partir, mais du début jusqu'à la fin du forum, j'étais là avec eux pour suivre en direct les interventions. Et à chaque fois, même si je n'étais pas... Parce qu'il y avait différents panels qui se succédaient, si je n'étais pas panéliste, j'intervenais comme étant intervenant de la salle. Ensuite, ce forum donc, a ouvert la porte à une tradition de forum. Et le dernier que nous avons organisé, c'était à Ségou, c'était sur l'agriculture, opportunités d'emploi pour les jeunes. Et il y avait justement un panel où les jeunes pouvaient interagir avec d'autres décideurs que moi. Il y avait bien sûr le ministre de l'Agriculture, le ministre en charge du développement rural, le ministre de l'Emploi et moi-même. Et la thématique était l'agriculture, un trésor est caché là-dedans. Oui. Pour amener les jeunes à comprendre, c'est un peu la fable du laboureur et ses enfants.
Exactement.
Travailler, prenez de la peine. Ouais. C'est le fond qui manque le moins. Et puis, finalement, au bout, il a amené les enfants à comprendre que le trésor qu'ils cherchent, c'est dans le travail.
C'est dans le travail.
Bon, ouais. Donc, c'était pour dire que l'agriculture peut être porteuse plutôt. Ensuite, il y avait différents intervenants dans le milieu, c'est-à-dire les banques, les structures qui appuient le milieu agricole et tout ça, qui étaient là, qui exposaient leur programme et qui interagissaient avec les jeunes. Bon, ça, c'est une plateforme qui nous permet d'avoir l'écoute des jeunes et d'être à l'écoute des jeunes. Ensuite, il y a aussi les initiatives que les jeunes eux-mêmes prennent et viennent et nous amènent. Et nous voyons, en fonction de la pertinence, comment nous pouvons les accompagner et toujours créer donc cette dynamique qui voudrait que les politiques de jeunes ne soient pas des politiques verticales, c'est-à-dire conçues par le département et exécutées en direction des jeunes, mais plutôt horizontales, et quelque chose où il y a une interaction permanente entre les bénéficiaires des politiques et les décideurs, pour qu'on puisse être sûr d'évoluer ensemble et dans le bon sens.
Dans le bon sens. AKS, Abdoul Karim Samaké, à Bamako, nous appelle. Allô Abdoul.
Bonjour Roger.
Comment ça va AKS? Ah, mais tu as dit.
Ouais, je vais très très fort. Et chez vous?
Ah, ça va trop bien. AKS, hein, vous avez bien suivi que nous avons Monsieur le ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne malien, hein, Mamadou Gaoussou Diarra. Hein. Est-ce que vous avez une question?
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Ouais, j'ai une question son excellence. Monsieur le ministre.
Mbanchou.
Tomovo.
Tarotula.
Ah, d'accord. Ok, ouais. Roger. J'ai une question pour
son excellence.
Le ministre.
Ouais.
Je l'ai entendu parler sur l'immigration, autrement dit l'aventure, quoi. Ouais. Bon, j'aimerais lui demander, est-ce la jeunesse, hein, la jeunesse malienne en aventure ne serait pas une solution pour un Mali dont la jeunesse est oubliée? Parce que quand vous venez au Mali ici, rien ne va, la jeunesse est oubliée, les vieillards n'acceptent pas d'aller en retraite, c'est tout à fait un problème. Quoi. À longueur de la journée, la jeunesse est là à prendre du thé. Est-ce que l'aventure n'est pas une solution?
Monsieur Samaké, je vous dirais d'emblée que non, l'aventure n'est pas une solution. L'aventure, c'est plutôt une fuite en avant. Vous pensez que la jeunesse est oubliée au Mali, c'est une perception. Mais vous avez vu que pendant presque une année, les jeunes en Espagne se retrouvaient tous les jours sur la place parce qu'elles se sentaient oubliées. Il y a une crise. Et la crise, elle n'est pas autre chose. Hein. C'est une crise économique. Aujourd'hui, le Mali traverse également une crise, la plus profonde de son histoire. Vous avez vu que les deux tiers de notre territoire ont été occupés pendant presque une année par des groupes de narcotrafiquants, des djihadistes, qui après ont pris des labels pour justifier une demande de sécession. Et cela ne va pas sans conséquence sur l'activité économique. La plupart des entreprises maliennes qui étaient viables ont soit fermé ou ont réduit considérablement leur activité. Les expatriés qu'il y avait dans le pays sont partis. Et vous voyez que cela ne peut pas ne pas impacter la vie du jeune Malien. Mais ce que je vous poserai aussi comme question, Samake, si tous les jeunes Maliens partaient en immigration, à l'exil, qui va faire le Mali? Vous pensez que c'est les jeunes soldats français qui sont venus dans le cadre de l'opération Serval qui vont apprendre, à conduire les bus à Bamako, à aller faire les ferrailleurs, à aller construire les maisons pour nous, ou bien les jeunes tchadiens qui sont venus? Non, c'est une situation exceptionnelle dont nous ne devons même pas être fiers. Et il faut qu'on comprenne que la solution, elle est d'abord nationale. Mais puisqu'on parle de ces jeunes qui partent, Monsieur Samake, vous convenez avec moi que pour partir, il faut avoir de l'argent pour partir. Vous savez combien ça coûte?
Je connais.
Ça fait combien à peu près? À peu près pour aller?
À peu près, il faut, pour aller en Espagne, il faut à peu près 2 millions par voie terrestre.
2 millions par voie terrestre. Et vous oubliez la voie maritime où il y a beaucoup qui meurent là-bas. Mais est-ce que, M. Samake, en toute honnêteté, vous ne pensez pas que si on vous donnait 2 millions, vous avez une chance de pouvoir réussir à Bamako? Vous voyez, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais dans ma prime enfance, j'ai vu à l'époque des jeunes qui venaient du nord ou de l'intérieur du pays qui se promenaient avec juste un petit étal en bois. Et il y avait quelques paquets de cigarettes, des paquets de bonbons et puis de la noix de cola. Au bout de quelques temps, ce vendeur ambulant arrive à louer un local et il a une boutique. Finalement, c'est tout le quartier qui vient s'endetter parce que les gens viennent prendre, une boîte de lait pour le petit déjeuner, qui pour prendre du pain en attendant la fin du mois, le salaire, et ils viennent payer. Mais ce monsieur-là, il ne démarre pas avec 2 millions de francs. Il démarre avec beaucoup moins. Mais c'est sûr que quand on démarre et qu'on a l'impression que celui qui est là, qui est jeune et qui roule dans une 4x4 et qui a peut-être 10 ans quand même d'expérience ou d'ancienneté dans une activité professionnelle, on veut le lendemain avoir le même niveau de vie. Oui, on peut être pressé et dire que la solution est dans l'aventure. Mais en tout cas, moi, je demeure convaincu que la solution, elle est locale et qu'il est important que tout un chacun, chaque Malien, et particulièrement les plus jeunes, comprennent que nous avons chacun une part de la solution. Et cette solution malienne veut que chacun y croit, chacun s'y emploie, et on va en sortir. J'en suis convaincu.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Restez là, AKS. Notre collègue aussi va poser une question, bien sûr.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Oui, merci Roger de m'avoir donné la parole et de m'avoir donné l'opportunité de parler comme ça, en direct, sur le plateau de RM Show.
Et merci à Kadiatou.
Écouté par les jeunes du Mali, en face du ministre malien de la Jeunesse et de la Reconstruction Civique. Quand nous regardons un peu le nom qu'on a donné à votre ministère, monsieur le ministre, je pense que vous avez une grande responsabilité par rapport à la prise en compte des aspirations des jeunes du Mali, parce que le constat nous a montré que les 20 dernières années, la jeunesse a perdu même le sens de l'éthique et de la morale au Mali. Et avec 75% de la population qui perd comme ça le sens de la morale, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire un devoir vis-à-vis de l'État et quel est mon devoir vis-à-vis de l'État et quel est le devoir de l'État vis-à-vis de moi et vice-versa. Je pense que c'est un grand problème maintenant pour un peuple qui a plus majorité de jeunes de décoller et de mettre en marche une économie. Le Mali, qui est un pays qui est en train de se chercher, nous sommes dans une guerre, nous traversons une période difficile. Et qu'est-ce que vous, en tant que ministre de la Jeunesse, avec ce grand portefeuille et cette responsabilité qu'on vous a donnée, vous prévoyez faire avec ces jeunes pour qu'ils puissent avoir le sens de l'éthique et de la morale?
Mais écoutez, c'est une bonne question. Une question programme, en fait. Oui.
J'aime bien la réponse, question programme.
Vous l'avez dit, la crise que nous connaissons elle n'est pas que d'ordre sécuritaire. Elle est beaucoup plus profonde. Parce qu'effectivement, sur les 20 dernières années, nous avons assisté, chacun à son niveau, à un délitement de tout ce qu'on avait comme valeur et vertu. Et au finish, on se retrouve avec un modèle d'homme malien qui ne reflète pas notre parcours historique et culturel. Et c'est pourquoi le président a tenu à créer un département spécialement dédié à la jeunesse et avec pour mission le réarmement moral de l'homme malien. Et les gens font souvent le hiatus en parlant de reconstruction nationale. Ce n'est pas la reconstruction citoyenne, hein. C'est plutôt la construction citoyenne. Mmh. Et pour moi, la nuance, elle est de taille. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit l'avenir appartient aux jeunes, c'est un euphémisme. Les jeunes, c'est d'abord le présent. Et cette jeunesse-là a besoin d'être cadrée, encadrée. Pas embrigadée, parce que ça, c'est une forme d'endoctrinement et ce n'est pas forcément positif. Mais encadrée pour participer dans le cadre d'une citoyenneté bien comprise. Alors, cela, c'est une mission qu'il nous faut nécessairement réussir, sinon il n'y a aucune politique de développement envisageable. Et c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, les gens sont effectivement prompts à exiger, comme vous l'avez dit, mais en oubliant que pour pouvoir exiger, il faut aussi avoir accompli sa part de devoir. Et en oubliant que, en fait, c'est la somme des individualités qui constitue la collectivité. Et les défis sont nombreux. Mais pour autant, il faut commencer à y croire. Et nous avons déjà entamé un chantier qui consiste à faire une étude de cadrage qui va ensuite se décliner en programme ou en politique nationale d'éducation à la citoyenneté. Mais nous sommes en train déjà de travailler sur la résurrection, entre guillemets, des structures telles que le mouvement pionnier qui a formé bon nombre de nos pères, et également faire revivre ce service national des jeunes qui est un service civique qui avait également existé, mais à partir de 91 on a estimé que ça faisait partie des vestiges du régime militaire, on a laissé tomber, mais aujourd'hui il s'avère que c'est indispensable que les jeunes à partir d'un certain âge puissent être encadrés, formés et qu'ils comprennent par exemple le sens de la devise, le sens du drapeau, hein, le sens de l'appartenance à une communauté nationale, et que cette appartenance doit aller jusqu'au fait qu'on puisse même donner son sang pour sauvegarder la tranquillité et la paix sociale. Mais c'est autant de moules formateurs sur lesquels nous sommes en train de travailler.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Et nous avons aussi notre collègue Modibo, hein, Dembélé. Merci beaucoup Modibo d'être là. Est-ce que vous avez une question pour notre invité de ce soir, monsieur le ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne?
Merci beaucoup Roger et big up à toutes les auditrices et les auditeurs de RM Show. Et spécialement, je n'oublie pas aussi les généraux. Et la question, moi je voulais rapidement lui poser deux petites questions. La première question, c'est par rapport à qu'est-ce que vous prévoyez pour arrêter surtout la fuite des cerveaux? Et la deuxième question, quand on regarde un peu le Mali, le taux d'alphabétisation, ça rote, si je ne me trompe pas bien, entre les 20-25%. Et on a remarqué surtout, chaque fois qu'on a la chance quand même d'avoir des interviews avec l'intelligentsia malienne, je veux dire l'élite, la plupart des gens, ils disent « Ah, on ne parle pas Bambara, on ne parle pas Fulani, ou bien on ne parle pas Sonrai. » Ils préfèrent vraiment s'adresser en français aux gens. En quoi, qu'est-ce que vous pensez? Ne pensez-vous pas qu'à ce rythme, l'usage des langues nationales, surtout, je prends l'exemple sur le Bambara, dans un pays où majoritairement les gens ne vont pas à l'école, qu'est-ce que vous prévoyez pour que, parce qu'en tant que dirigeant, s'il y a une barrière de communication entre les administrés et les administrateurs, ne pensez-vous pas que cela pourrait représenter aussi un frein pour votre département?
Oui, on est obligé, dans le cadre d'une politique mûrie de développement, d'inclure cette composante-là. Tout à l'heure, en introduisant le débat, je l'avais dit, nous sommes dans le cadre d'une citoyenneté globale. Mais pour y participer, il faut y aller avec ses valeurs. Et si on perd ses valeurs, après on devient un être insipide dans un monde où on n'existerait pas. parce qu'on n'aura pas d'identité propre, on s'identifiera à d'autres. Et donc, l'usage de nos langues nationales, effectivement, est une préoccupation du gouvernement qui y travaille et même également au niveau du département, les politiques que nous allons mettre en œuvre pour sensibiliser, pour former, il va de soi que cette donne-là va être prise en compte. On va forcément avoir des programmes de sensibilisation et d'éducation dans nos langues nationales. Parce que, effectivement, vous avez un très faible taux d'alphabétisation, mais que ce soit en français ou dans les langues nationales aussi. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas français, que l'on peut écrire le bambara ou bien le swaraï. Forcément, ça aussi, c'est une réalité. Mais encore une fois, même l'éducation formelle, il y a besoin d'encore beaucoup d'efforts. Ensuite, en marge, il y a des initiatives allant dans le sens de l'éducation non formelle. Je pense à l'ex-DENAFLA, par exemple, où il y a eu beaucoup d'efforts parce qu'aujourd'hui, nous avons des langues qui sont transcrites. On a notre alphabet. Et moi-même, j'ai eu le bonheur d'être alphabétisé en Bamana.
J'ai été alphabétisé aussi.
Voilà. Donc, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas parce que l'intelligentsia ne parle pas les langues nationales, mais vous avez aussi quand même un héritage culturel de la colonisation qui est là. Aujourd'hui, la langue officielle au Mali, c'est le français. Ces langues nationales ne sont pas encore officialisées. Donc, dans le cadre de l'administration, vous ne pouvez pas venir avec ces documents en Bamanankan ou en Swaraï, parce qu'il faudrait aussi éviter de tomber dans des formes de discrimination. Il faudrait aller par étapes, que l'on identifie l'ensemble des langues et qu'ensuite on en fasse des langues officielles. En ce moment, oui, il peut y avoir peut-être des progrès. Mais encore faudrait-il qu'à ce niveau-là aussi, tous les usagers de l'administration soient alphabétisés dans les différentes langues. Sinon, on va aussi aboutir à une forme de tour de Babel où vous aurez des documents dans toutes sortes de langues et qui ne marcheraient pas.
Et ce sera problématique.
Voilà. Voilà.
Kadiatou, je crois que Kadiatou a une autre question.
Non, j'avais juste une petite question rapidement. Oui. Monsieur le ministre, vous êtes venu dans le cadre du sommet des chefs de l'État en échange avec les États-Unis, les Africains et puis les États-Unis. Avant le sommet des chefs de l'État, il y a eu le sommet pour les jeunes leaders que Obama a fait venir à peu près 500 jeunes ici, et parmi lesquels il y avait 6 Maliens. Et ça fait la troisième fois que les Maliens viennent ici. Et on n'entend plus, quand ils retournent au pays, on n'entend plus parler d'eux. Et qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous prévoyez faire avec ces jeunes leaders qui ont été formés et qui peuvent servir de modèle aux autres jeunes au Mali?
Oui, je pense qu'on avait déjà
abordé ça.
Mais par contre, quand vous dites qu'on n'entend plus parler d'eux, je nuance, parce que peut-être d'ici, vous n'entendez plus parler d'eux. Je me souviens, il y a à peine un mois, j'ai été à la session de clôture d'une formation initiée par une jeune dame qui avait participé au premier programme, Yali, Madame Diallo Mariam Dramé, et qui avait initié un projet en direction des femmes, justement, du Nord. Et je la sais très active, et je sais qu'elle n'est pas seule. Ils ont des initiatives qui sont prises au niveau local, et également accompagnées par l'ambassade des États-Unis, que je salue d'ailleurs au passage. Mais ne pensez pas que c'est peine perdue. Non, bien au contraire. Ce que j'ai dit, c'est des jeunes qui viennent en complément de l'effort national. Parce que nous aussi, nous avons pour politique de recenser les talents et les jeunes leaders et de les accompagner. Donc, s'il y a d'autres qui ont la possibilité à l'international d'avoir d'autres types d'expériences, à leur retour, nous pensons qu'ils doivent pouvoir démultiplier. Parce que, vous savez, dans ce domaine-là, la formation par pair est beaucoup plus porteuse que lorsque vous avez un professeur formel qui vient, qui donne des cours de façon magistrale.
C'est la raison pour laquelle on les forme.
L'exemple est le plus parlant. Quand un jeune qui a une conviction arrive à partager cette conviction avec d'autres jeunes, il a plus de chances d'impacter.
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Son Excellence Mamadou Gaoussou Diarra, ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, merci infiniment de nous avoir accordé ce temps. Hein, ce temps où tous ces jeunes au Mali et au Congo, à N'Djamena, à Abidjan, vous ont suivi. Et vraiment, c'était un grand plaisir, un honneur de vous recevoir. Espérons que ça ne sera pas la dernière fois, monsieur le ministre.
Eh bien, bien sûr, il passera nous
voir
la prochaine
fois. C'est
pas
vous, M. le ministre, c'est le ministre qui
merci
parle.
Merci beaucoup.
Roger, c'est à moi de vous remercier pour cette invitation sur votre plateau.
Merci beaucoup, M. le ministre. Merci, Lionel. Merci, Tiang. Et j'ai dit peace, Bamako.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en